Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Longtemps, je me suis demandé ce que devait ressentir Céline Dion sur scène à Las Vegas. Et puis un jour, j'ai présenté l'équipée sauvage du vendredi, en public. Elle aussi, après 7 ans d'un célibat essentiellement subi, elle aimerait sentir un jour The Power of Love. Je vous demande d'applaudir la seule, l'unique, Léva Rock.
Merci, bonjour à tous.
Eva, je vous sens prête à finir la semaine en beauté.
Je suis au bout du rouleau.
Parfait. Et voilà. Vous connaissez le principe, l'équipée sauvage, c'est un peu la ligue des champions des journalistes d'Europe 1. Chaque après-midi, au service de votre bonne humeur et de votre culture G, ils s'affrontent à coups de chronique. Le vainqueur repartira avec cette couronne en plastique assez minable, mais assez représentative aussi du budget alloué à notre émission. Une compétition journalistique toujours supervisée, vous le savez, par un invité d'honneur qui généralement ressort de là très impressionné par le niveau général des chroniques, comme Patrice Lecomte dernièrement.
On m'avait dit que j'allais faire une émission top.
Ah oui, ça c'est vrai.
Merde.
Aujourd'hui, heureusement que j'ai suivi cette formation à l'Acteur Studio l'été dernier. Sinon, j'aurais eu du mal à jouer la surprise, la découverte face à celui qu'entre Europe 1 et C'est à vous, je croise aujourd'hui pour la seulement 43e fois sur un plateau. Attention, mesdames et messieurs, Acteur Studio. Il est le médecin préféré des Français. Depuis le temps que je rêvais de le rencontrer en chair et en os. Nom de Dieu, voilà que mon vœu le plus cher est exaucé. On accueille Michel Simès.
Bonjour, bonjour.
Michel, vous publiez
Changer des codes de suite d'acteur, hein, franchement.
Oui,
ouais,
je vais faire le cours Florent.
Ouais.
Vous publiez Même pas bête, les 5 sens, un comparatif ludique entre l'homme et l'animal, coécrit avec Farah Kessri, une vétérinaire qui nous rejoindra d'ailleurs dans un instant. Absolument idéal pour des enfants qui veulent tous faire vétérinaire. À commencer par vous quand vous étiez petit, Michel.
Oui, et on m'a rapidement dit surtout n'y va pas, c'est trop difficile comme étude, va faire médecine. Je sais pas, je me souviens plus de l'abruti qui m'a dit ça, mais je peux vous dire que médecine, c'est pas si simple.
Vous avez regretté ?
Non, parce que j'adore mon métier, que je suis passionné, mais franchement, je sais pas, on m'avait dit que le passage, la première année était très très difficile. Mais je pense que les gens avaient confondu avec la première année de médecine.
On va feuilleter ce livre ensemble, mais d'abord, je vous présente les forces en présence aujourd'hui. Il est clairement la caution intello de notre émission. Oui, comme indicatif musical, il avait demandé Stan Getz, mais c'était trop cher. Alors, pour évoquer l'univers littéraire, on a opté pour cette musique de Boulard autrichien des années 80. Il devra s'y faire. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Vous êtes l'expert littérature d'Europe 1. Et aujourd'hui, pour marquer des points face à Michel Simès, vous avez choisi de nous parler de ces écrivains qui étaient aussi des médecins.
Mais oui, parce que j'ai remarqué qu'il y en avait plein des médecins qui deviennent écrivains. Il y a Conan Doyle, il y a Jean-Christophe Ruffin, il y a Rabelais.
Puis il y en a même à l'Académie française.
Hein. En Ruffin notamment. Voilà. Et je vais me poser la question de savoir pourquoi les médecins deviennent écrivains.
Très bonne question.
Ouais, une bonne question.
À vos côtés, Michel Simès. Ne commencez pas déjà à saper le travail de Frenker. À vos côtés, Michel, elle aussi a opté pour le clin d'œil aujourd'hui. Clin d'œil à l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain que vous co-présentez avec Adriana Carambeu. Un mot à ce sujet.
J'en ai connu des femmes et des séduisantes, mais jamais dotées d'un tel châssis.
Non, Michel, un mot au sujet de l'émission, pas d'Adriana. Bref, à vos côtés, Anne Le Gall, l'expert environnement d'Europe 1, qui aujourd'hui vous offre clé en main un nouveau concept d'émission, Les pouvoirs extraordinaires des plantes. Est-ce que j'ai bien compris le sens de votre chronique, Anne ?
Oui, on pourrait penser que les plantes vertes sont assez inutiles.
On dirait que vous êtes stone. On dirait qu'elle a fumé pour de bon.
C'est la musique.
Oui, ça vous met dans le truc, ça vous rappelle des souvenirs, visiblement.
Mais en fait, les plantes vertes sont intelligentes et beaucoup plus communicantes qu'on ne pense. Je vais vous en parler.
Merci, Anne Le Gall. Voici, les amis, pour le programme L'équipée sauvage. C'est parti.
Europe 1, L'équipée sauvage.
C'est donc, on peut le dire, le médecin préféré des Français, Michel Simès, qui nous accompagne cet après-midi. Je vais faire une confidence, Michel, avec la programmatrice qui cale nos invités. On a eu un petit débat. Elle m'a dit, Michel Simès, c'est con de le mettre un vendredi, vu que le vendredi, on est en public. Donc, c'est mieux d'avoir un chanteur, quelqu'un qui puisse mettre le feu. Ce à quoi j'ai répondu, mais ma cocotte, non seulement Michel est un chanteur, mais pour mettre le feu, c'est pas le dernier. Puisqu'en effet, Michel, c'est l'otorhino-laryngologie, mais c'est aussi...
Toute la médecine que j'aime...
C'est vous ?
Ouais,
c'est lui.
Oh, la classe.
Elle vient de là, elle vient de ma blouse. Les mots ne sont jamais les mêmes.
Un organe qui se pose là, si j'ose dire.
Mais osez.
Un mot de ces petits clips qu'on trouve sur Internet, vous les aviez réalisés à l'époque de la fin du
voilà,
magazine de la santé.
C'est au moment où je quittais le magazine de la santé, j'avais voulu faire un petit clin d'œil aux téléspectateurs et on avait enregistré ces clips. Et en plus, je les avais diffusés lors de la soirée, parce que je suis aussi président du comité des fêtes du magazine de la santé. Et donc, j'organise tous les ans la petite fête de fin de saison et je leur avais diffusé 4 clips, 4 ou 5, comme ça qu'on avait enregistrés. Ouais.
Alors, en préparant cette interview, j'ai lu vu que pendant vos études de médecine, dans la salle de garde, vous étiez ce qu'on appelle l'économe. Vous nous expliquez ce que ça veut dire ?
Alors, c'est pas celui qui épluche les pommes de terre. C'est l'économe, c'est le président de la salle de garde qui est chargé alors de beaucoup de choses sur le plan administratif, les relations avec l'hôpital, avec la direction, et puis surtout d'organiser toutes les fêtes en salle de garde et de faire respecter les traditions de la salle de garde qui sont alors la tradition, d'abord, c'est que on ne doit pas parler politique, on ne doit pas parler religion et on ne doit pas parler médecine à table.
Donc on parle que de cul.
Voilà, que de cul. Ça, alors ça c'est plutôt encouragé. Et il faut respecter le président, l'économe, qui est assis sur un trône avec à la place des accoudoirs deux grands pénis.
Il nous présente même pas bête un livre qui passionne mon fils de 7 ans. On va en parler. Michel Simès est avec nous jusqu'à 18h. À suivre, réforme de la santé et réforme des retraites font partie des sujets les plus brûlants du moment. Serons-nous bien soignés demain quand nous serons justement à la retraite ? Je vais vous dire mon intime conviction, tant qu'il y aura des médecins aussi impliqués que Michel Simès, tout ira bien.
Vous en rêviez, c'est parfait pour vos vieux jours. Un implant et vos genoux font de vieux jours. Debout à l'air. Je vais vous poser une prothèse sur vos moignons.
C'est horrible.
Prêt pour le marathon.
Ah Michel, si tous les médecins pouvaient être aussi psychologues que vous. Certains de médecins ne manquent pas de finesse puisqu'ils sont devenus écrivains. D'ailleurs, les médecins font-ils de bons écrivains ? Et inversement, Nicolas Caro nous raconte.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Apprendre en s'amusant, c'est la devise de notre émission qu'on a piquée à Play School. Vous écoutez l'équipe est sauvage en public le vendredi. Oh et quel public ! Michel, ça doit vous rappeler le Parc des Princes, un soir de Ligue des Champions ça. Michel Simès nous accompagne cet après-midi. Votre enfant, comme tous les enfants d'ailleurs, veut être vétérinaire. Il va adorer le livre coécrit par Michel Simès, Même pas bête, un comparatif ludique entre nos cinq sens et ceux des animaux. La couverture est très belle, pas vrai Eva ?
C'est Franck Ribéry.
Non, ah, bien, on discute, mais la compétition doit démarrer. Voici notre premier concurrent. Un dandy à l'érudition sans borne qui, selon la rumeur qu'il a lui-même ébruitée, lirait jusqu'à 7 livres par semaine. Forcément, il a avec les mots une facilité étonnante.
Il prit un roman, l'ouvrit, il lut, mais il n'y sait. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, et pour ça, il a trouvé à méditer toute la semaine dernière pour vous.
Nicolas Caro, notre expert littérature. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir ces écrivains, et ils sont nombreux, qui sont aussi médecins.
Ben oui, ça fait longtemps que j'ai remarqué que beaucoup d'écrivains, des grands écrivains même, étaient, avant de se lancer dans la littérature, ou pendant même, des médecins, à commencer par le plus illustre,
Céline.
Rabelais.
Ah bah,
François Rabelais.
On m'avait eu.
Gargantua, Pantagruel, etc. Il était médecin, alors médecin du XVIe siècle, mais quand même... Céline, effectivement, Louis-Ferdinand Destouches, docteur Destouches, d'ailleurs son héros de Voyage au bout de la nuit, Bardamu, est médecin lui aussi. Tchekhov était médecin,
ah bon
mais ouais, il n'a d'ailleurs pas arrêté son activité pour écrire La Mouette, La Cerisée, etc. Il a commencé à publier des petites nouvelles dans les revues pour arrondir ses fins de mois pendant ses études. Ceci explique cela. Et donc ensuite, il est devenu médecin, mais resté. Il est devenu écrivain, mais resté médecin.
Il est devenu écrivain pour raison mercantile.
Absolument, absolument. Enfin, pas seulement, évidemment, c'est qu'il savait le faire, il avait ce talent. Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Alors lui, c'est la médecine qui a fait de lui l'écrivain qu'il est devenu. Pendant ses études, il suivait les cours du docteur Joseph Bell, grand médecin extrêmement intuitif. Il faisait rentrer des patients dans l'amphithéâtre. Les patients ne disaient rien. Alors Bell se tournait vers ses étudiants et il disait « Alors, qu'est-ce qu'il a ?» Les étudiants regardaient tous leurs pompes, parce qu'ils ne savaient pas du tout. Et Bell se lançait dans un numéro où le patient ne disait toujours rien. Et lui, il disait « vous êtes porteur de briques, vous avez mal au dos, à la 4e vertèbre, et vous venez du 2e régiment d'infanterie d'Écosse. » Et le patient disait « Bah ouais, effectivement. » Et donc après, il expliquait que il avait vu une petite trace rouge sur le col de la chemise. Donc ça, c'est pour les briques. Ensuite, sa manière de se tenir et sa façon de marcher, ça indiquait qu'il appartenait à tel régiment, etc. Et donc, les étudiants étaient comme des fous. Ils étaient passionnés par leur prof. Et Conan Doyle s'est dit « Si j'applique cette méthode-là à un flic, on résout tous les crimes. » Et d'ailleurs, Dr House a été inspiré par le même docteur.
Voilà, j'allais vous dire ça ressemble.
Ouais, David Shore, le créateur de la série, a admis qu'effectivement, il ne s'est pas inspiré de Sherlock Holmes, comme tout le monde l'a dit, mais directement du modèle de Sherlock Holmes, Joseph Bell. Bulgakov était médecin aussi. Oh, et Jean-Christophe Ruffin.
Lisez Le Maître et Marguerite si vous avez jamais
Absolument.
Lu Bulgakov.
C'est Jean-Christophe Ruffin, prix Goncourt aussi.
Alors d'accord, mais pourquoi les médecins deviennent écrivains?
Alors j'ai plusieurs idées et j'ai lu quelques témoignages d'écrivains médecins ici et là. Déjà médecin, en tout cas médecin libéral, c'est quand même un métier d'indépendant, donc un peu isolé malgré les allées et venues des patients. Et donc écrire, c'est un moyen peut-être d'échapper à cet isolement. Deuxième piste, les patients justement, puisqu'ils se confient aux médecins, ils racontent toute leur vie, à chaque fois on pourra en faire un roman. J'ai posé la question à l'écrivain, médecin, prix Goncourt, Jean-Christophe Ruffin.
Je pense que la médecine est un art du regard d'abord. C'est aussi d'une certaine façon un art de l'écrit, puisque c'est une façon, disons, de transposer dans les mots un état de fait, un état de maladie. C'est ce qu'on appelle le diagnostic, finalement. Ça consiste à mettre un mot, des mots, sur les maladies, sur les mots, AUX. Voilà. Donc la médecine, c'est d'abord un art d'observation, je pense. Et c'est ça, à mon avis, qui est le point, j'allais dire, de rencontre le plus net avec la littérature.
Voilà, et puis surtout, médecin, c'est côtoyer 24 heures sur 24 les grandes questions existentielles qui font les grands romans, la souffrance, la mort, mais l'espoir aussi. Donc la vie, donc la littérature, c'est QFD, merci, au revoir. Et dernier mystère quand même, s'il y a tant d'écrivains médecins, pourquoi ont-ils une écriture aussi illisible sur les ordonnances?
C'est ça, il y a un mystère avec ça. C'est
non, il n'y a pas de mystère. Il y a le fait, si vous avez suivi une première année de médecine, vous verrez la vitesse à laquelle vous devez écrire. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, vu qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui vont dans les amphis suivre les cours, mais qu'ils le font par Internet, il y a moins de problèmes d'écriture. Et je pense que la génération de jeunes médecins aujourd'hui écrit mieux que nous. Nous, il fallait écrire à une vitesse complètement dingue parce que le prof, il parlait aussi vite que je vous parle là et il fallait prendre des notes. Donc c'est comme ça qu'on déforme complètement une écriture qui au départ est normale.
Merci en tout cas Nicolas Carreau, votre chronique aura-t-elle tapé dans l'œil de Michel Simès et de nos auditeurs? Réponse juste avant 18h. À suivre, Michel Simès est notre invité pour un livre qu'il coécrit avec Farah Kessri, une vétérinaire qui justement va nous rejoindre, car Michel est comme ça. Il n'aime pas tirer la couverture à lui. Oui, c'est une star, mais c'est aussi un homme moderne qui aime collaborer avec des femmes, comme Farah Kessri a pu le constater dès leur premier rendez-vous de travail.
Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
Je ne suis pas votre secrétaire. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal.
On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
Michel Simès et Farah Kessri nous racontent les différences et les similitudes entre nous et les animaux juste après Bruce Springsteen. Hello Sunshine sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Humour et érudition, tel est votre cocktail de l'après-midi sur Europe 1. L'équipe est sauvage du vendredi en public continue avec deux invités d'honneur pour le prix d'un, puisque sa co-auteur Farah Kessri vient de rejoindre Michel Simès. Bonjour Farah.
Bonjour.
Bonjour et bravo, car on imagine ce que ça doit être que de co-écrire un bouquin avec Michel Simès. Michel, ça fait une heure qu'on bosse, on n'a toujours pas pondu une ligne, on n'a plus le temps de déconner là.
C'est dommage, j'avais une petite blague, mais c'est une dame qui va dans un sex shop et qui dit au vendeur, voilà, j'aurais acheté un sextoy, donc le type lui montre un peu toute la collection, elle regarde, elle hésite, elle dit, bon bah je vais vous prendre le vert, le jaune et le rouge. Et là, le vendeur lui dit, bah madame, le vert et le jaune c'est possible, mais le rouge c'est pas possible, c'est l'extincteur.
Comment vous avez réussi à bosser, à concocter un livre de qualité avec ce loustic?
Bon, il fallait essayer de capter les 5 minutes de concentration de Michel. Voilà, mais en fait, il faut dire que dans les 5 minutes, il est très efficace.
Il est très fort.
Donc on arrive à avancer quand même.
Alors, c'est ce que dit ma femme, ça dure 5 minutes, mais c'est très efficace.
Pourquoi vous avez besoin de vous concentrer pour faire, vous avez besoin de vous concentrer pour faire l'amour?
Non, de quoi vous parlez?
Vous avez l'esprit très mal tourné.
Ah, pardon,
quand vous connaissez Michel, jamais penserait à ça.
C'est pour ça.
Farah, vous êtes donc vétérinaire, oui. Vous êtes donc une sorte de Michel Simès qui aurait réussi, puisque c'était son rêve d'enfant.
Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que je suis vétérinaire et éthologue et journaliste au magazine de la santé sur France 5. C'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés avec Michel pour des chroniques. Et c'est les chroniques qui avaient suscité l'intérêt de Michel. À chaque fois, il me posait des questions et on notait. À chaque fois, il me donnait des nouvelles idées pour les chroniques. Et un jour, on s'est dit, bah, tiens, on va en faire un livre.
Alors, on apprend des choses à chaque page. Donc, je le lis, c'est vrai avec mon fils en ce moment. Par exemple, la coquille Saint-Jacques.
Dans la coquille, bon, c'est un bivalve. Hein, donc,
un bivalve, bien sûr, comme ma voiture.
C'est deux coques.
Ou comme votre femme. Votre femme aussi est bivalve.
Non.
On l'embrasse, chérie. Je te présente Michel Simès.
Pour la coquille Saint-Jacques, en tout cas, la particularité de cette bivalve, c'est justement d'avoir 200 petits yeux de 1 mm. Alors, la coquille Saint-Jacques peut vous regarder si elle est vivante. Donc, bon.
Mais la question qu'on se pose, c'est à quoi ça lui sert d'avoir 200 yeux, sachant qu'elle va se faire bouffer.
Bah, non, justement. Si jamais elle arrive à repérer les mouvements, hop, elle ferme les deux coques et elle se protège de cette façon. Ça lui permet de repérer très très vite le prédateur.
Depuis que j'ai appris ça, moi, les coquilles Saint-Jacques que j'adore, je les ouvre de dos. C'est-à-dire que je ne veux pas que la coquille me regarde pendant que je l'ouvre. Je la retourne.
Il y a aussi, alors il y a aussi, on apprend des choses qui sont très sérieuses, les amis. La position des yeux traduit si l'animal est un prédateur ou une proie. Ça, je ne savais pas du tout.
Oui, ça a fasciné Michel. Au départ, il me dit, mais ah oui, c'est vrai, pourquoi les ânes ont des yeux sur les côtés? Ouais. Bah, c'est tout simplement parce que ce sont des herbivores, donc des proies, et ils ont besoin, tout en mangeant, de regarder si jamais il y a un prédateur qui est à l'affût, qui risque de les attaquer. Donc, ça leur permet d'avoir un champ visuel beaucoup plus large.
Que les prédateurs, ils ont les yeux devant. Nous sommes des prédateurs.
On est des prédateurs.
Eva, oui, c'est ça qui est
vous
intéressant.
Êtes une prédatrice.
Oui, non, mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous répondez l'un l'autre, en fait, hein, puisque à chaque caractéristique animale, vous faites la comparaison avec les humains. Et c'est là qu'on voit que vous êtes médecin.
C'est une bonne intervention, Eva.
Enfin, on voit que vous êtes médecin. Ouais, ça fait 25 ans que les gens pensent que je suis médecin et je me dis, voilà, on va continuer.
Même pas bête, un livre pour découvrir nos points communs, mais aussi ce qui nous sépare des animaux. Parmi ce qui nous sépare, évidemment, le sens artistique.
Toute la médecine que j'aime.
Peut-être pas l'exemple le plus représentatif, mais bon. Europe 1. À suivre, quand Anne Le Gall m'a proposé d'enquêter sur les pouvoirs extraordinaires des plantes, j'ai tout de suite compris qu'il s'agirait d'une enquête de terrain. Une enquête de longue haleine. Eh bien, après 10 jours d'enquête de Barbès à Casablanca, en passant par la porte de Clignancourt, Anne Le Gall est en mesure d'en apporter la preuve scientifique irréfutable.
Il faut imaginer un énorme éléphant couché sur le côté dans un bain et qui se laisse gratter le dos et les oreilles avec des écorces de noix de coco.
Les plantes, certaines en tout cas, ont vraiment des pouvoirs extraordinaires. À tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage, 16h-18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1.
Aujourd'hui c'est vendredi.
En public, rampe de lancement idéale vers le week-end. D'autant qu'on reçoit aujourd'hui Farah Kessié et Michel Simès pour un livre jeunesse extrêmement bien fichu, même pas bête, dès 6 ans, et va adorer.
J'ai pas tout compris, vraiment je l'avoue, voilà, je le concède.
Ma première question est simple, Michel, elle découle directement de ce qu'on vient d'entendre. Quel est le sens qui se détériore le plus vite avec l'âge ?
Y en a deux, il y a la vue et l'audition. L'audition, on va vers ce qu'on appelle la presbyacousie, c'est-à-dire qu'on n'entend plus les fréquences aiguës, et c'est ce qui fait qu'on commence à être gêné quand on est par exemple dans un restaurant où il y a beaucoup de bruit, pour comprendre ce que dit la personne qui est en face.
Je réalise que ça commence à m'arriver, j'ai 38 ans.
Ça peut commencer à 40 ans.
Oui, même avant, oui.
Et après, il y a la vue, bien évidemment, puisque vous avez la presbyacousie ici qui fait que vous devez avoir le bras qui s'allonge pour pouvoir lire, mais voilà, c'est les deux sens qui sont les plus touchés avec l'âge.
Merde, j'étais content de vous recevoir et là je
vous savez
que
qu'il est hypochondriaque.
Oui, alors
Mathieu,
c'est vrai, est-ce que
c'est intéressant que non, vous soyez hypochondriaque, Mathieu, parce que pour mon prochain livre,
je ne veux pas savoir,
vous pourrez témoigner.
Mon Dieu, c'est ça
sur pourquoi pas.
Ah, pourquoi pas, oui, effectivement,
je viens d'en faire un là-dessus, mais je cherche des clients pour mes émissions.
Je suis un très très bon client pour tous les gens qui ont peur d'être malade, ça c'est sûr.
D'ailleurs, vous avez un petit truc sous l'œil.
Oh non ! Oh mon Dieu, mon Dieu ! Farah, je me tourne vers vous. Je ne parle plus à cet individu. Est-ce que les animaux, certains animaux, ont des super pouvoirs, des super performances
absolument.
Desquelles on pourrait s'inspirer ?
Absolument, mais justement, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Michel, c'est, si vous étiez une chouette, eh bien, vous ne pourriez jamais, jamais perdre l'audition parce qu'elle a des capacités de régénération de ses capteur de l'audition. Jamais, elle sera jamais sourde. Elle peut même faire la sourde oreille si elle veut, c'est-à-dire qu'à l'entrée de ses oreilles, qu'on voit pas, hein, qui sont cachées sous ses plumes, eh bien, il y a des petits clapets qui vont faire en sorte de boucher ses oreilles. Donc, si elle veut, elle fait la sourde oreille, mais elle deviendra jamais sourde.
J'ai l'impression qu'Eva a aussi cette capacité à ne pas m'entendre parfois quand elle veut.
Ah bah, il vaut mieux, hein, d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est vrai, oui, si ça vaut mieux dans votre cas. Elle aussi avait des super performances avant qu'elle ne décide d'enquêter sur les pouvoirs étonnants des plantes. Soi-disant, elle n'aurait rien qu'on sommet d'illicite, mais d'après Eva, qui est allée dans son bureau...
Ça sentait la bœuf de partout.
Anne Le Gall, une explication peut-être ?
Parce que maintenant, et surtout au pôle Nord...
Ouais, te casse pas, expliquez-nous plutôt ce que vous avez découvert sur les plantes, Anne Le Gall.
Alors, c'est pas du tout ce que vous croyez, mais effectivement, comme les animaux, les plantes ont de super pouvoirs. Alors, c'est vrai que dans le langage courant, quand on dit état végétatif ou tenir le rôle de la plante verte,
oui,
ça n'évoque pas un rôle social de premier plan. Or, les plantes sont loin d'être passives. et même loin d'être silencieuse. Il y a une équipe de chercheurs israéliens qui vient de découvrir que les plantes sont capables de crier. Ils ont placé des micros...
Ok, Anne, ok. Prenez votre petit cachet.
Ils ont pris des plantes de tomates et de tabac. Ils ont placé des micros à 10 cm à peu près et ils ont stressé les plantes. Donc en fait, ils les ont asséchées et ils ont fait des petites entailles au niveau de la racine. Résultat, pendant une heure, les plantes se sont mises à crier.
Je veux bien que ça soit une compétition et que l'idée soit de gagner et d'impressionner les gens, mais on ne peut pas non plus raconter n'importe quoi. Non, alors, sur Europe 1, enfin...
C'était pour l'effet sonore qui est un peu raté, mais c'est pas grave. En vrai, les plantes ne crient pas comme ça, elles émettent des ultrasons que nous n'entendons pas, donc. Mais pendant une heure, les chercheurs ont enregistré.
Mais ça veut dire qu'elles ont mal.
Des ultrasons. En fait, on pense que ce message était soit un message d'alerte pour les autres plantes, soit un SOS, parce qu'on sait déjà que les plantes sont capables d'envoyer par messagerie chimique des messages aux autres quand elles sont agressées. Si elles sont agressées, par exemple, par un insecte, elles sont capables d'émettre une substance.
Et les arbres qui font ça.
Oui, il paraît que les arbres sont
absolument
connectés entre eux. Ouais.
Voilà, elles attirent le prédateur qui va venir donc manger l'insecte. Donc la plante verte est immobile mais redoutable. Et d'ailleurs, c'est son immobilité qui fait sa force.
Comment ça ?
Parce que comme elle ne peut pas fuir face à l'ennemi, elle a été dotée de capacités pour anticiper et s'adapter à toutes les situations. Donc la plante est capable de trouver la lumière pour pousser grâce à la photosynthèse, et ça c'est extraordinaire parce qu'on n'a jamais... Voilà, le tournesol s'oriente, certaines feuilles se ferment la nuit, et on n'a jamais réussi à reproduire en laboratoire parfaitement la photosynthèse. Le jour où on y arrive, c'est une révolution énergétique. Elle est capable aussi, la plante, par ses feuilles, de sentir la pollution, de sentir la chaleur, de sentir l'humidité. Quant aux racines, elles peuvent suivre 15 paramètres simultanément. Donc elles peuvent capter la pression, l'humidité, l'acidité du milieu, la composition chimique du milieu. Et donc ces plantes sont de véritables machines de guerre.
Mais comment les plantes peuvent-elles traiter autant d'informations sans cerveau ?
Alors, en fait, elles ont un cerveau, elles en ont même plusieurs.
Farah fait oui de la tête, c'était une bonne question.
Oui, oui, très bonne question.
C'est Darwin, en fait, qui a eu l'intuition dès 1880 que les plantes avaient une sorte de cerveau au bout des racines, et ça a été vérifié depuis. On arrive à capter une activité électrique qui est proche de celle des neurones des animaux dans les radicules, dans les extrémités des racines. Et donc, quand tous ces petits ordinateurs des plantes se connectent sous terre, ça fait comme un immense réseau Internet, et ça permet aux plantes collectivement de s'adapter à leur environnement. Ça fait rire Michel Simès.
Non, moi j'ai entendu Doc Gynéco dire qu'il avait déjà vu, il avait déjà vu un peuplier partir en courant devant des chenilles.
Je crois qu'Anne, votre chronique méritera. Devrait être vérifié scientifiquement, quand même.
Non, tout ceci.
Tout ça est validé.
Est vérifié. Et d'ailleurs, le neurobiologiste Stefano Mancuso, qui est l'une des références de la neurobiologie sur les plantes, pense que la plante verte est l'avenir de l'homme. Sachez-le.
Mais la question que pose votre chronique, c'est pas ça. C'est que c'est la souffrance des plantes. Si elles sont capables d'émettre des cris ou de. Peut-être qu'elles
ressentent. Ça pose aussi la question de la protection, absolument.
Et donc, on ne peut plus couper des fleurs, on ne peut plus faire de bouquets. Après le mouvement vegan, il va y avoir le mouvement anti-fleurs.
Et le sadisme des chercheurs qui, quand même, leur cisaillent les racines.
Ça, c'est une autre histoire.
Alors après, on peut comme ça de l'anthropomorphisme à chaque fois.
Bah oui, mais si elles ressentent. Bref, merci Anne Le Gall. Votre chronique aura-t-elle séduit nos invités ? Michel Simès, au sortir de cette chronique sur les plantes, comment vous vous sentez ?
C'est comme si j'avais fait un toucher rectal au géant vert. Vous voyez ?
Pas tant changé que ça, finalement, le Michel.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, revient dans un instant avec ce qui est certainement devenu en l'espace de quelques mois la séquence la plus attendue de notre émission, le quiz qui oppose Eva Rock à l'invité. Quiz qui implique évidemment d'avoir une bonne mémoire. Or, quand on sait qu'Eva n'arrive même pas à se souvenir du nom de son dernier amant...
Comment il s'appelait le mec de l'an dernier ? Le Mexicain ?
Enfin, Eva, comment avez-vous oublié Don Chibro de la Vega ? C'est pas gagné pour le quiz. Hein.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Quel bonheur de conclure cette semaine éprouvante en compagnie d'invités aussi sympathiques que la vétérinaire Farah Kessri et le docteur Michel Simès, et en présence d'un public, on peut le dire, Michel, on peut le dire, un public merveilleux.
Des personnes qui ont eu recours discrètement à un lifting.
Oh. Oui, non, Michel, non, respectons le secret médical, même si c'est vrai qu'au premier rang, là. Bon, bref, passons. Le moment est venu où Eva doit tout miser sur son cerveau. Votre cerveau va bien, Eva ?
Le pauvre, il est à l'hôpital. Ah.
C'est donc des conditions optimales pour notre quiz.
Qu'est-ce
Michel
Simès,
Eva Rock, que vous voyez devant vous, a défié le groupe IAM sur le rap Ibrahim Malouf sur la trompette, Elise Moon sur les petites annonces. C'est donc sans aucune crainte qu'elle va vous défier maintenant sur la médecine. Quiz santé, c'est un vrai faux? Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Roche, chez l'homme, le testicule gauche est plus chaud que le droit. Vrai ou faux?
Alors non, c'est moi qui réponds, mais donc vous allez me permettre d'avoir un point, donc je dis faux.
Eh ben non, c'était vrai.
C'est vrai, vous êtes tombé. Et vous êtes tombé dans le panneau de Michel.
Redoutable
Michel Simès. Le testicule gauche est plus chaud, on le sait depuis 2007 grâce à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Deux chercheurs en fertilité humaine l'ont constaté en prenant les températures d'hommes nus, mais aussi habillés, d'hommes assis et debout. Ça s'explique principalement parce que le testicule gauche est plus petit que le droit, donc il chauffe plus vite, comme
Eva,
c'est une donnée scientifique, c'est pas la peine de demander des explications.
C'est comme ça.
Mathieu a raison, c'est plus chaud et voilà. Vous avez qu'à les prendre tous les deux dans les mains et vous verrez qu'il y a une grosse différence de température.
On fera ça dans la prochaine interpub. Michel Simès, en août dernier, dans une pub, la compagnie d'assurance allemande Barmer a donné un conseil étonnant à ses clients pour mieux dormir. 1. Ouvrir la fenêtre et crier un grand coup. 2. Se masturber. Ou 3. Demander à sa femme d'arrêter de parler après 21h. Je ne suis pas responsable de tout ce qui est écrit.
Hashtag MeToo.
Pour que vous me posiez la question, c'est que c'est forcément se masturber.
Mais il est rusé comme un sioux. Se masturber, c'est la deuxième plus grosse assurance du pays. Sur la publicité, il est écrit « Grâce à la masturbation, le sommeil vient tout seul. Pour la pratique, nous ne pouvons pas vous aider. Nous sommes là juste pour vous donner des conseils santé. » Et c'est plutôt un bon conseil, car l'orgasme libère des endorphines qui aident à se relaxer. Vous confirmez, docteur?
C'est vrai chez l'homme, moins vrai chez la femme. Que ça libère des endorphines chez les deux, bien évidemment, c'est le principe de l'orgasme. Mais on sait que l'homme a tendance à s'endormir après l'amour, alors que la femme elle y retournerait bien.
Voilà. On dort bien aussi après. On dort très bien après.
On fera le test à l'interpub.
Vous voulez une vanne là?
Non, votre bouche allait commencer à s'entrouvrir.
Oui,
et donc,
parce que
on ne sait jamais ce qui va en sortir, Michel.
Parce que je respire aussi. C'est pour ça.
Eva Roche, Michel Simès, vous jouez en même temps. À Jaffa, en Israël, un bar offre 25% de réduction sur les consommations à certaines femmes, à un certain horaire. Mais alors, quelles femmes? À celles qui ont leurs règles? À celles qui viennent avec une mammographie de moins d'un an? Ou à celles qui sont capables de faire 10 pompes?
Ah, moi je pense que c'est l'histoire de la mammographie, ça doit être dans le cadre d'une opération de prévention sur le dépistage du cancer.
Oui, continuez de réfléchir. Michel.
Moi c'est pour les règles, je pense. Les femmes qui ont leurs règles.
Eh bien, il y en a un qui est médecin, on sait pourquoi. Michel Simès a la bonne réponse, effectivement. Le bar offre des coups aux femmes qui ont leurs règles. C'est le Bloody Hour. Aucune preuve n'est à apporter. L'idée, c'est de dédramatiser un sujet encore trop tabou.
Absolument. Et comme c'est un pays où il y a quand même un peu de religion.
Voilà. Mais c'est pour ça que je pensais que c'était pas ça, en fait.
Mais vous aviez tort.
Comme souvent. Eva Roche, généralement, on meurt plus quand il fait froid ou quand il fait chaud?
Ça dépend, quand il y a la canicule, généralement, il y en a qui passent pas le...
Et essayez de réfléchir dans votre tête avant de nous donner tout le processus. On n'en a pas forcément besoin. Donnez-nous une réponse.
Quand il fait chaud, j'en sais rien. Quand il fait chaud.
Eh bien, quand il fait froid, c'est vraiment un sans faute, mais pas orthographié comme on l'aimerait. Quand il fait froid, une étude a observé 74 millions de décès survenus entre 1985 et 2012 dans divers pays. Le froid est responsable de 7% d'entre eux pour 0,42% pour le chaud.
Mais vous êtes d'accord qu'elle est un peu bête, la question?
Non, la question est très intelligente. D'abord, parce qu'elle a été posée par Mathieu. Surtout, le froid, ça s'explique parce que le froid entraîne ce qu'on appelle des vasoconstrictions. D'ailleurs, les gens qui sont cardiaques savent qu'il ne faut pas faire d'effort quand il fait froid parce que les coronaires, les artères qui irriguent le cœur, peuvent se spasmer et entraîner des problèmes cardiaques.
Oui, mais on vous dit la même chose quand il fait très chaud, on vous dit de ne pas faire de sport.
Non, mais Eva, vous n'allez pas à chaque fois essayer d'avoir des explications. Vous avez faux. Je vous ai donné une explication scientifique. Un point, c'est tout, Eva.
Vous voyez mon quotidien, Michel.
C'est pas facile.
C'est pas simple. Michel Simès, attention, cette question ne va pas vous départager puisque vous avez déjà gagné, c'est pour l'honneur. Michel Simès, qui a chanté la blouse de l'infirmière? Patrick Sébastien, Johnny Hallyday ou Patricia Cass?
La blouse de l'infirmière, Patrick Sébastien, je crois.
Vous croyez que c'est Patrick Sébastien?
Il me semble.
Ah oui, vous croyez ça?
Ouais.
Eh bien, écoutons, vous qui êtes fan.
Bah oui, c'est Patrick Sébastien.
Je lui demande ce qu'elle porte en dessous. Elle me répond rien du tout. Oh,
Johnny Hallyday, sorti en 85 sur l'album Rock'n'Roll Attitude, paroles et musique, et Michel Berger. C'était avant MeToo, évidemment, le blues de l'infirmière qui n'a rien sous sa petite blouse. Et qui remporte ce quiz? Oh, surprise incroyable! C'est Michel Simès qui remporte le quiz sur la médecine face à Eva Roche. Un veto, un médecin, leurs lumières combinées sont éblouissantes. Farah Kessri et Michel Simès passent l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'homme est-il un animal comme les autres ?
Ah ouais.
C'est le point de vue débat, celui des experts est disons plus nuancé. On continue de parcourir les différences parfois surprenantes entre nous et les animaux, un sujet qui me tient à cœur car moi aussi enfant, si je n'avais pas été psychopathe, j'aurais probablement rêvé d'être vétérinaire.
Je vais vous dire le nombre de fourmis que j'ai tuées quand j'étais petit. J'étais un psychopathe. Je les tuais, je les faisais brûler.
Ouais, mais j'étais plutôt psychopathe. On s'en parle, je crois que j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de dire tout ça aujourd'hui avec le recul, juste après les frangines. Donnez-moi sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. 2 heures hybrides entre compète et humour, un peu comme si Bruce Lee rencontrait Bourville. Pour inviter le combat d'aujourd'hui, 2 invités passionnants qui nous présentent un livre qui ne l'est pas moins, une vétérinaire et un médecin, Farah Kessri et Michel Simès sont nos invités cet après-midi. Votre livre s'intitule Même pas bête, les 5 sens, comparons l'homme et l'animal. Mon fils, je l'ai dit, kiffe, mais moi aussi. Et c'est ça qui est bien dans le bouquin, c'est que les parents ne vont pas s'ennuyer une seconde en le lisant, on apprend des trucs à chaque page. Quoi. C'est
oui, vraiment... comme moi j'ai appris en l'écrivant avec Farah, tout ce qui concerne les animaux m'a fasciné. J'ai appris effectivement, vous achetez le bouquin pour les gamins, alors c'est marqué de 7 à 12 ans, mais vous allez voir que vous allez le lire en famille, vraiment.
Alors, parmi les trucs qu'on apprend dans ce livre, moi, j'ai d'autres questions qui me viennent. Est-ce que chez les aveugles ou chez les sourds, les autres sens sont plus développés ? On dit ça
c'est
souvent,
la compensation,
c'est le cliché. Et ça existe, c'est une réalité.
Absolument. De toute façon, c'est vrai que chez les humains, ça va être la vision qui va prédominer, c'est le sens le plus développé. Mais dès
pas chez
que
les aveugles,
êtes...
hein.
Non, chez tout le monde. Chez tout le monde, vous avez... Et moi, je réponds bêtement. Je cours. C'est comme ça, tout le temps, avec Michel, il faut rester concentré.
C'est ça, la force de votre tandem.
C'est ça. Et donc, effectivement, même chez les animaux, vous allez avoir toujours des sens qui vont être beaucoup plus développés que d'autres pour compenser, parce qu'ils doivent absolument s'adapter à leur écosystème. Ils ont les sens dont ils ont besoin.
C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité chez l'homme, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins, les neurones vont se connecter entre eux dans une zone précise et fonctionnelle du cerveau correspondant à la fonction nécessaire. Par exemple, les aveugles, pour lire le braille, ont développé une sensibilité très importante de la pulpe des doigts, de la pulpe de l'index notamment, et la zone correspondant à la pulpe de l'index dans le cerveau s'est développée et est devenue beaucoup plus grosse que chez vous.
Et donc ça prouve que le cerveau est extrêmement malléable.
Bien sûr,
à l'échelle d'une vie, on peut l'améliorer.
Heureusement, parce que si vous avez le talent que vous avez, Mathieu, pour présenter une émission, c'est qu'à un moment, vous avez modifié votre cerveau pour être capable de faire ce que vous faites. Sinon, l'enseignement n'existerait pas. Oui. L'expérience n'existerait pas.
Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple, mais il faudrait que je modifie encore un peu mon cerveau.
Oui, mais c'est la définition même de l'intelligence, c'est la capacité des êtres vivants à s'adapter.
Si nous avons 2 narines, c'est parce que chacune d'elles donne une information différente au cerveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Oui, alors c'est le cas chez la taupe à queue glabre, et ça n'est pas sexuel. Et en fait, elle a effectivement, c'est comme ça qu'elle s'oriente, parce que bien sûr, il fait nuit dans ces couloirs dans lesquels elle vit, et pour repérer l'aliment qu'elle va pouvoir ingérer ou repérer un danger. Eh ben, elle s'oriente avec ses narines, et nous, il semblerait qu'on ait aussi, d'après une étude, la narine droite qui ne donne pas les mêmes informations que la narine gauche, même si tout arrive au niveau du bulbe olfactif au milieu du cerveau. La narine droite nous permettrait d'avoir une émotion, c'est-à-dire de savoir si on a une odeur qui nous plaît ou pas, et la narine gauche nous permettrait de mettre un mot sur ce que nous sentons, bien qu'encore une fois, tout aille au même endroit dans le cerveau.
On va faire l'expérience pendant la pub.
Europe 1.
Nous allons bientôt aborder la 2e heure de l'équipe est sauvage, et je dois dire que le nouveau Michel Simès m'épate. Élégance, distinction, raffinement, pour l'instant, il a su se tenir.
Pas de masturbation, rien.
Oui, un vrai gentleman en somme. Mais pourra-t-il tenir comme ça jusqu'à 18h, surtout quand on sait qu'on va parler de l'effet de l'espace sur notre corps et de l'espionnage dans le couple.
Tu peux raconter une expérience personnelle ou
pas ? Non, Eva, ce qui s'est passé à Guadalajara doit rester à Guadalajara. Souvenez-vous de ce que disait Don Chibro.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
La France a perdu Johnny Hallyday. Heureusement, elle n'a pas tout perdu car il nous reste Michel Simès.
La médecine vivra tant que vivra ma blouse.
Michel Simès est l'invité de l'équipe est sauvage en public le vendredi avec Farah Kessri, co-auteur du livre Même pas bête. Notez que c'est nouveau pour Michel de s'adresser au jeune public. Fut un temps pas si lointain où, au magazine de la santé, sous le regard mi-amoureux, mi-consterné de Marina Carrère d'Encausse, il s'adressait essentiellement à un public averti.
S'arroser le vagin avec la boisson à bulles, c'est la porte ouverte à toutes les infections sexuellement transmises.
Et vu le trou que fait le coca quand vous le laissez quelques heures sur la nappe, on comprend mieux que dans la salle de jeu, ça puisse faire des dégâts.
Non, Michel, non.
Toute une époque, Michel, quand même.
C'était quand même les grandes heures dont je ne me souviens pas. Je ne dirais pas que j'ai honte, mais quand même.
Michel, vous restez avec nous. Deux nouveaux compétiteurs vont nous rejoindre avec mathématiquement deux nouveaux sujets. On parlera des effets étonnants de l'apesanteur sur le corps humain et de cette pratique, hélas, de plus en plus courante, l'espionnage au sein du couple.
Oh putain !
Comme vous dites, Eva. Mais tiens, tiens, il est déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Quand je suis dans mon studio Merlin le vendredi, je me sens comme une rockstar à Wembley. Comme dirait Poulvord dans Podium.
Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein.
Car oui, le vendredi, nous sommes en public. Un public bouillant, certes, c'est vrai. Mais êtes-vous aussi chaud que nos invités Sylvie Testu et Michael Youn? C'est difficile. Ce soir, c'est le médecin préféré des Français, Michel Simès, qui nous accompagne pour Michel Hippipip.
Hourra!
Oh la vache, c'était mou! Pour Michel et Pipip! Est-ce que vos patients sont aussi fans de vous, Michel? Est-ce qu'à la fin d'une consultation, il y a une standing ovation?
Non, mais c'est-à-dire qu'à l'hôpital, à un moment, effectivement, il y a des gens qui venaient parce que, vu à la télé, que les gens pensaient que j'étais prix Nobel, donc j'ai arrêté de recevoir des nouveaux patients. Maintenant, je prends que mes anciens patients. Il y avait 2 mois d'attente pour me voir, ce qui est complètement débile quand vous avez mal. Donc voilà, mais non, les gens. Et puis, quand vous venez à l'hôpital, que vous venez me voir et que vous êtes malade.
Oui, vous n'avez pas envie de rigoler. Voilà. Et juste une question, c'est quand on est Michel Simès, il doit y avoir 2 écueils. C'est-à-dire, soit on pense que vous n'êtes pas médecin, soit on pense que vous êtes effectivement prix Nobel de médecine. Il n'y a, ouais. a pas de, alors, de juste milieu.
Alors, avec le temps, les gens ont bien compris que j'étais médecin, enfin, le croient encore. Et le prix Nobel de médecine, ça reste toujours un petit problème. C'est-à-dire qu'ils pensent que. Les
j'ai cru que vous allez dire que ça reste un objectif.
Les gens pensent que je sais tout sur tout, ce qui est vrai.
Alors, Michel et Farah Kastri qui est resté avec nous, qui est la co-auteure de ce livre, on continue de feuilleter, même pas bête, le temps simplement de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. Vous connaissez certainement Ève Roger.
Elle a les hormones au plafond, je la connais tous les ans à la même époque.
Voilà Banco, c'est elle, chef plénipotentiaire du service Société d'Europe 1. Elle occupe actuellement la 2e place du classement général. Bonjour Ève.
Bonjour Mathieu.
C'est un sujet à la fois passionnant et terrifiant que vous nous proposez aujourd'hui.
Et oui, je vais vous proposer quelques astuces pour surveiller, espionner votre conjoint.
Mais c'est
sans
dégueulasse.
Vous faire attraper, mais c'est de l'espionnage soft.
C'est de l'espionnage soft, mais ça reste de l'espionnage quand même.
Bah oui.
D'un point de vue éthique, c'est indéfendable.
Nous en parlerons.
On a validé cette chronique.
Je ne sais pas, moi, ça n'est pas arrivé jusqu'à moi. Face à vous, Michel Simès, l'esprit de Stephen Hawking, caché derrière les lunettes de Derrick. Expert astrophysique d'Europe 1, il est un des rares Français à avoir fait l'amour dans l'espace et à avoir commenté en direct la chose à sa partenaire.
C'est ce qu'on appelle la méthode du tracteur gravitationnel.
Oui, oui, non, on ne peut pas savoir. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Qu'est-ce que c'était le tracteur gravitationnel, Alain Sirou?
Ah bah c'est une question de gravité, c'est-à-dire...
Ah mais c'est pas une position. J'ai mal interprété.
C'est de l'influence entre deux corps.
Bah, oui, mais c'est pareil. Vous dirigez la revue Ciel et Espace et ça tombe bien, aujourd'hui vous nous parlez des effets de l'apesanteur sur le corps humain.
Oui, il y a peu d'études qui soient des études de long terme sur la présence de l'homme dans l'espace. Et au bout de 40 ans, presque 50 ans, plus de 50 ans d'ailleurs, on a aujourd'hui une certitude, c'est qu'on n'est vraiment pas fait pour ça.
Ah, on est vraiment pas... Donc on va pas partir sur Mars?
Ah ben l'homo espacius, je pense qu'il va falloir qu'il change. Ouais. Oh,
voilà pour le programme de cette 2e partie, les amis. Qui sera élu chroniqueur du jour? Le suspense est déjà intolérable. C'est pourquoi je me tourne vers notre invité, un docteur, mais pas n'importe lequel, le docteur le plus célèbre de France. Qui est pour vous Michel Simès? Un médecin? Un présentateur? Ou un chanteur?
On va saigner jusqu'à la moelle, tu vas te vider.
Il est si polyvalent que la question se pose. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'ego de l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est le même principe, sauf qu'on s'est pas fatigué à faire de montage.
Ah oui, Michel Simès.
Oh bah oui, physiquement il est bien, mais il en joue pas ou un petit peu. Bah ouais, non, mais bah... Oh.
Ah, moi j'adore.
Oh bah il ressemble à un homme de... une cinquantaine d'années alors qu'il en a 60.
Oui, très beaucoup. Avec Adriana, moi j'aime bien quand il présente du corps là.
Il y a ambiguïté? Oh là là, ça, je savais pas ça.
Mais non, ce sont des collègues de travail, monsieur. Non, non, non.
D'abord, il est ORL de fonction.
Ils ont le droit à coucher.
J'ai dit non.
J'aime bien sa façon de présenter. Et puis, il est assez drôle. Effectivement, ça fait un peu Dr House, mais il me paraît sympathique. Et puis, j'aime bien ses émissions.
Il donne une impression comme ça de confiance.
Ces magazines, je les achète, là, Dr Good.
On se souvient de ce qu'il dit. Oui. C'est bien. Un médecin qui dit des choses dont on se souvient, c'est toujours mieux.
Sarah Castry, vous coécrivez même pas bête avec Michel Simès. Vous pensiez quoi de Michel Simès avant de le rencontrer?
Alors, la première fois qu'on s'est vu, je vais vous dire un aveu, je savais pas si j'allais l'adorer ou le détester.
Ah, c'est vrai, à ce point-là?
Ah, vraiment, parce qu'en fait, je le connaissais pas, je savais pas du tout qui c'était. Et mais très très vite, vraiment, on a découvert, enfin moi j'ai découvert que Michel était vraiment quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement intelligent, perspicace et passionné. Du coup, c'est passionnant de travailler avec lui.
Waouh, ça sent la répartition 50-50 des droits sur ce livre, j'ai l'impression. ça a dû être un bon deal pour vous, Farah. Michel, une question que je me pose, vous êtes à un degré de notoriété qui est complètement dingue, vous êtes toujours dans les personnalités préférées des Français. Est-ce que le soir chez vous, dans votre Chesterfield, quand vous fumez votre pipe, est-ce que vous vous dites, c'est normal ce qui m'arrive parce que je suis quand même sacrément bon? Ou est-ce que vous dites, waouh, j'ai quand même aussi de la chance dans ma carrière parce que je suis arrivé au bon moment, j'ai représenté quelque chose pour les Français.
Pour être très sincère avec vous, je comprends tout à fait les Français. Je veux dire,
vous êtes troisième animateur préféré des Français.
Oui, ouais, alors le fait, oui, j'ai laissé la place à Nagui. Faut dire qu'il quand même il donne du sien. Hein, pour on le voit, vous allumez la télé à n'importe quelle heure, vous tombez sur lui, temps, donc c'est plus facile. Non, trêve de plaisanterie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'être aimé par les gens comme ça, mais ça va, j'ai réglé le problème avec mon ego, c'est bon. Maintenant je vais me servir de cette popularité pour faire passer des messages aux Français, des messages de santé publique pour les Jeux Olympiques, pour tout un tas de choses. C'est ça qui est important finalement dans cette notoriété, même si bien évidemment je suis très ému par l'affection que les gens me portent dans les classements. Mais je voudrais remercier quand même Farah pour les gentils mots qu'elle a prononcés.
Oui, c'est vrai que c'était très touchant. Même pas bête, nos cinq sens comparés à ceux des animaux. Michel Simès et Farah Castry passent l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, chacune de ces chroniques nous passionne. À la fois scientifique rigoureux et formidable conteur, malgré des choix optiques discutables, Alain Siroux nous donne des nouvelles de l'espace. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'impact d'un séjour dans l'espace sur notre corps. Bon, il est passionnant certes, mais pas toujours très précis dans ses prédictions. Par exemple, la dernière fois qu'Eva lui a demandé quand elle rencontrerait enfin un mec, sa réponse n'a pas été très claire.
Un impact majeur aura lieu, ça c'est certain, demain ou dans quelques siècles.
Allez Eva, ne désespérez pas.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, le premier tournoi journalistique français et même international et même intergalactique continue, car sous les yeux émerveillés de notre invité Michel Simès, il arrive.
Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir.
Capitaine Siroux. Quand il le voit arriver, les autres journalistes comprennent que tout est fichu, quelle que soit la qualité de leur chronique. Alors il s'incline, Alain décroche la couronne.
Et il rentre à poil.
Oui, c'est comme ça que ça se passe, normalement, dans l'équipe sauvage. Aujourd'hui, Alain, un sujet extrêmement concernant pour nos auditeurs. Vous vous intéressez à ce qui arrive à notre corps lors d'un voyage intersidéral. Qu'est-ce qui se passe quand on va dans l'espace?
Bah, c'est une question de science. C'est-à-dire, comment se comporte le corps humain en l'absence de gravité? C'est vraiment ça. Fondamentalement, la question scientifique, c'est ça. Si on enlève G, la gravité, qu'est-ce qui se passe physiquement? Comment on se comporte? Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites depuis des années sur les astronautes, et c'est un peu une liste à la Gaston Ouvrard. J'ai la rate qui se dilate, etc. etc. Mais le squelette, c'est des pertes osseuses, c'est très grave.
Ah oui.
L'équilibre, les problèmes d'oreille interne, 40% des astronautes ont le mal de l'espace. Donc ça veut dire qu'on a trouvé des solutions, mais c'est extrêmement compliqué. Le cœur, il n'y a pas besoin de pomper aussi fortement parce que...
Ah oui, alors qu'est-ce
pour faire remonter le sang des pieds vers le haut, il n'y a pas de gravité. C'est pour ça qu'on voit les astronautes avec la tête enflée au début des vols spatiaux. Les muscles, il faut faire 2 heures de sport à minima sur des vols long terme pour pouvoir rester en forme. Et on estime aujourd'hui qu'un an dans l'espace équivaut à un vieillissement de 10 ans sur Terre. Mais c'est compensable. Ça veut dire que quand on revient, au bout d'un mois, on peut récupérer. On réussit à compenser. Donc il y a une nouvelle étude qui vient de sortir qui est très intéressante parce qu'elle concerne les astronautes de la Station Spatiale Internationale
qui sont
donc des vols de 6 mois. Vous voyez, c'est des vols longs. Et on a étudié, je dirais, leur circulation sanguine. 11 astronautes, très précisément. Et il a été mis en évidence un ralentissement et parfois même, alors là je m'adresse aux médecins bien sûr, une inversion de cette circulation sanguine au niveau de la veine jugulaire interne. C'est-à-dire celle qui est dans le cou et qui distribue le sang vers le visage et le cerveau. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable d'imaginer qu'on puisse avoir une circulation inverse du sang.
Je ne comprends même pas ce que ça veut dire.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le sang monte au cerveau par les carotides, qui sont les grosses artères que vous sentez quand vous mettez les doigts dans le cou et qui vous permettent d'avoir vos pulsations, et repartent de la face et du cou par les veines jugulaires, qui sont de grosses veines qui sont sous la peau. Mais s'il y a une inversion, ça ne savais pas, parce que s'il y a une inversion, ça veut dire que, et c'est probablement pour ça qu'ils ont des maux de tête aussi importants, oui.
Certains astronautes, un en particulier qui est cité dans l'étude, a développé un caillot sanguin au niveau de la veine jugulaire interne, qui conduit à une embolie pulmonaire qui peut être
mortelle. Absolument,
donc ça veut dire qu'on voit vraiment que l'absence de gravité, c'est quelque chose d'important. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut faire comme dans les films de science-fiction, il n'y a pas de gravité dans les vaisseaux. Il y a un truc anti-gravité qui fait qu'on peut marcher, prendre du café, tranquillou, comme ça.
C'est exactement la solution.
Super. Vous allez m'inventer ça, Alain Sirou, pour la semaine prochaine.
Alors, c'était en 68, c'était 2001 au lycée de l'espace. Vous voyez, hein, et il avait inventé l'anti-gravité, sauf que ça a un coût. Ça coûte cher de faire bouger des vaisseaux dans l'espace. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle les contre-mesures, c'est-à-dire trouver des solutions par des médicaments, etc., etc. Ou l'autre solution, c'est encore d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus vite, parce que si vous allez sur la Lune, c'est 1/6 de la gravité terrestre. Bon, vous pouvez supporter sans problème, on retrouve une gravité. Ou sur Mars, c'est 1/3 de la gravité. Donc vous y allez vite et c'est possible. En fait, la conclusion de cette affaire-là, c'est que l'homme n'est pas fait pour aller dans l'espace. Ça, c'est très clair. Il est né sur la Terre avec un squelette et tout. Il a été façonné par la gravité.
Imaginons que Donald Trump soit réélu. Il va falloir quitter la Terre un moment avec le réchauffement climatique.
Ouais.
Bon, bah donc là, il faudra bien une fusée. Il faudra bien qu'on y aille.
Oui, on a qu'à mettre Trump dans la fusée.
Oui,
c'est une autre
option. Ce ne sont pas des vols qui dépassent un an. Et on a un astronaute, un cosmonaute russe, soviétique, à l'époque, qui a fait plus de 14 mois dans l'espace.
Donc, comment, lui ?
Alors,
c'est le rapport officiel de l'Union soviétique.
Il était toujours russe.
En fait, la conclusion que je voulais donner, c'est que l'homo espacius n'existe pas. Et si on imagine un jour des voyages très très long terme, ou si on imagine un extraterrestre qui voyage dans l'univers pendant très longtemps, vous savez à quoi il ressemblerait physiquement ? À un poulpe. C'est-à-dire un cerveau concentré, des yeux, beaucoup
de cœur,
beaucoup de pattes, et tout ça.
Et un cerveau dans les pattes en plus.
Il y a un cerveau dans les pattes. Et on regarde aujourd'hui des animaux dans l'espace. On a testé les araignées, par exemple, pour voir comment elles faisaient leur toile.
Il y a eu plusieurs espèces. Il y a eu des primates, des rongeurs, des grenouilles. On a envoyé pas mal d'animaux dans l'espace. Il y a plus d'animaux que d'humains, ça
Petite
c'est
chatte.
Sûr.
Hein.
Aussi.
Et laïque.
Si vous pouvez bien détacher les mots, ça me servira une prochaine fois. C'est mieux. Merci Alain Sirou pour cette chronique qui, ma foi, est passée crème.
Un peu comme papa dans maman. Quoi.
L'image est belle. Votre poésie sera-t-elle récompensée? Réponse juste avant 18h. À suivre. Depuis que ce n'est plus notre invité Michel Simès qui est l'animateur préféré des Français, mais Nagui, je me demande si ça vaut encore la peine de regarder la télé. Franchement, Michel, se faire doubler par Nagui, je ne sais pas comment vous faites pour le prendre avec autant de calme, avec autant de recul.
Pendant que je me crève le cul,
oui,
j'ai dû désintégrer la carte,
oui,
moi,
non, non,
à ce petit mec,
oui, non, mais Michel, ne cassez pas le studio. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Les conseils précieux des Baroques arrivent juste après Gregory Porter, Revival sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Nous ne sommes plus qu'à quelques encablures du week-end, et quel bonheur, Eva, de passer l'après-midi avec un confrère charmant, drôle, compétent, que les Français adorent.
Ah, Nagui ?
Non, Eva, Michel Simès, oh putain !
Oh là 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 !
Excusez-la, Michel Simès qui nous présente aujourd'hui, avec sa co-auteure Paracasserie, même pas bête, une comparaison ludique entre nos cinq sens et ceux de nos amis les bêtes. Michel Simès, médecin, animateur, auteur, mais aussi acteur. Il vous est arrivé de jouer quelques rôles au cinéma, Michel, dans des téléfilms ? Est-ce que ça pourrait être la suite de votre carrière? Ou c'est juste une petite
parenthèse? En tout cas, je vais rejouer dans un téléfilm au printemps, là, toujours pour France 3, où je vais jouer, et c'est ça qui est extraordinaire, le rôle d'un vétérinaire.
Ah, enfin, c'est très drôle.
Enfin.
Il m'a demandé des conseils, voilà. En particulier sur un geste.
Je vais être conseillé par Farah quand je vais avoir à véler une vache.
Et ça veut dire quoi?
Mettre la main, mettre la main très profond pour lui enlever le placentable.
Et en plus, il y a des foins. Mais il faut faire rentrer vraiment tout son bras.
Jusqu'à l'épaule, Michel.
Mais j'ai le bras long.
Très bien.
Il faut être délicat aussi. Il faut être très délicat.
Oui, enfin, elle ne va pas me faire un procès non plus.
Le propriétaire, si. L'éleveur, si. Ça coûte cher, une vache.
Justement, on parle télé, on parle écran, en tout cas avec Eva Rock, qui nous parle aujourd'hui d'une appli au nom piégeux, Oku. Elle va devoir être extrêmement vigilante sur la prononciation. Cela dit, on est confiant car la prononciation, c'est vraiment son point fort.
Franchement, après The Irishman de... Scorsese, dont on a parlé, je vais la redire même.
C'est les Irish.
Non, j'arrive
c'est
pas
un autre pays, c'est pas l'Irlande.
C'est pas l'Irlande. Après The Irishman de Scorsese.
Eva Rock, ce week-end, on regarde pas la télé. Tant mieux pour vous. On télécharge une appli. Qu'est-ce que c'est que cette
histoire? Oui, alors d'abord, je parle sous le contrôle de Dr Simes cet après-midi. On est d'accord pour dire que les enfants devant les écrans, on évite. Et du Dr Kessry, mais on parle pas d'animaux, on parle des enfants. Donc je m'adresse à Michel.
Mais les animaux regardent la télé aussi,
malheureusement. Oui, on évite de mettre les enfants devant les écrans.
C'est une catastrophe.
On est d'accord.
Un mot là-dessus, Michel.
Il faut vraiment limiter considérablement. Je vais vous donner un seul chiffre. Ouais. Aujourd'hui, entre 5 et 17 ans, les enfants doivent théoriquement faire une heure d'activité physique par jour. Il y en a moins de 5% en France qui le font. C'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et les enfants qui ne bougent pas seront des adultes qui ne bougeront pas. Et ils ne bougent pas pourquoi? Parce qu'ils sont devant leurs écrans.
Bon, alors
le message est passé.
Je ferai ma chronique lundi, en fait. Non, alors on va admettre que quand même, parfois, nos chers bambins ont raison de notre patience. Alors on laisse quelques minutes.
Ah non, j'ai pas dit qu'on
enfants.
Faisait pas.
Voilà,
j'ai
il faut moins de 15
minutes.
Il faut faire attention. Ouais. Voilà. Faut moins de 15 minutes pour les moins de 6 ans.
Justement, j'ai trouvé un petit remède grâce à France Télévisions qui vient de lancer une nouvelle plateforme. Alors c'est une application gratuite que vous téléchargez sur vos tablettes et vos téléphones portables qui s'appelle Oku. Ça s'écrit O-K-2-O. C'est pour les 3-12 ans et je reconnais que c'est très très bien. Vous choisissez d'abord l'âge de votre enfant, ensuite le temps de visionnage. C'est vous qui indiquez, je ne veux pas qu'il passe plus de 20 minutes ou plus de 40 pour les plus grands. Et les héros apparaissent alors, ils peuvent choisir le dessin animé qu'ils veulent, par exemple ça pour les plus petits.
Salut, c'est moi, Choupi, je marche
vers
que de souvenirs.
Choupi pour les plus petits, mais il y a aussi ça dans les dessins animés que vous pouvez voir. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous êtes un peu grand, Mathieu. C'est pour les enfants âgés de 7 ans et plus.
Ah, j'ai jamais vu ça encore.
C'est Lapin Crétin.
Ah, j'en suis pas encore là.
Ah ouais, moi j'adore.
Encore au Lapin Crétin.
Ah, j'adore les Lapins Crétins.
Voilà.
C'est un drame.
Et vous pouvez également entendre ça.
Oh, ça c'est Jamy.
Alors voilà.
C'est pas sorcier.
Vous allez, voilà,
c'est
exactement.
Mais c'est plus avec Jamy.
Exactement. Exactement, ouais. Parce que c'est pas sorcier qui est destiné toujours aux enfants de 10 ans et plus. Oku propose une nouvelle version du magazine scientifique, alors sans Jamy, mais avec Cécile Djunga qui est humoriste belge, Max Bird qui est un youtubeur scientifique que je vous recommande, et puis est professeur Feuillage aussi qui est comédien et qui réalise des vidéos sur le thème de l'écologie qui est excellent. L'émission a été rebaptisée C'est toujours pas sorcier et elle est désormais donc disponible en exclusivité sur cette plateforme. Petit détail, les enfants quand ils sont sur cette plateforme, ils ne peuvent pas sortir. C'est-à-dire s'ils jouent sur votre portable, ils peuvent pas se déconnecter, ils peuvent pas aller se balader sur le net.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit et sans publicité. C'est France Télévisions qui a monté ça et ça s'appelle Oku AK2O.
Merci.
AK2O, pardon.
C'est pas Jamy, c'est Jamy. Jamy, vous faites ça à d'autres moments.
Oui, oui.
C'était le petit plus de Michel Simes.
Europe 1.
C'est un sujet assez tabou, les amis, voire embarrassant, que nous allons aborder dans un instant avec Ève Roger, car certains d'entre nous s'y reconnaîtront fatalement. Qui dans ce studio et parmi vous, chers auditeurs, n'a jamais espionné son conjoint en jetant, par exemple, un discret coup d'œil dans son téléphone portable, Michel?
Il fait non de la tête, mais il dit oui avec le...
Oui, oui. Alors, décryptage d'un phénomène de société qui prend de l'ampleur, l'espionnage dans le couple.
Europe 1, l'équipé sauvage, 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipé sauvage, Mathieu Noël.
Quelle ambiance ce soir dans le studio Merlin. Nous reprenons l'antenne. Alors que durant la coupure pub, notre invité Michel Simes était en grande conversation avec Ève Roger, conversation qu'Ève a conclue par ces mots, une main compatissante posée sur l'épaule de Michel.
C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire jouer une femme.
Oui, le médecin préféré des Français, à défaut d'être l'animateur préféré des Français, vu que ce salopio de Nagui lui a chipé la place, est avec nous. Michel Simes nous raconte dans un livre passionnant les différences parfois subtiles entre nous et les animaux. On continue de le feuilleter, mais Michel, l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrente du jour dans cette folle compétition qui oppose chaque soir les meilleurs journalistes d'Europe 1. Ève Roger, vous avez perdu votre première place. Comme vous me dites en antenne, plus le choix.
Faut que je bande.
Faut que j'assure, c'est ça que vous me disiez. Hein. N'oublions pas le caractère tout public de notre émission. Ève, vous nous proposez un thème qui va tous nous concerner. hélas.
Et oui, alors permettez-moi de commencer sérieusement, Mathieu. L'idée de cette chronique m'est venue en lisant la future loi sur les violences conjugales. Son article 10 prévoit de condamner les hommes qui utilisent des logiciels espions pour géolocaliser leur femme ou leur ex, ça veut dire suivre leur déplacement à distance. Alors ça veut d'abord dire qu'aujourd'hui, géolocaliser quelqu'un, c'est autorisé par la loi, déjà. Et puis je me suis demandé comment c'était possible, et là j'ai découvert un monde parallèle. Il suffit de 5 minutes et de quelques dizaines ou une centaine d'euros pour installer une application sur le portable de son conjoint ou de son ex.
Vous nous donnez les références ?
Je mettrai sur internet, il y en a des centaines. Donc cette application ne se voit pas, elle est invisible par la cible, la personne ciblée, et là, miracle, vous pouvez effectivement suivre à distance quelqu'un, savoir où il est, mais aussi lire ses SMS, ses mails, consulter la liste de ses appels, épier les messages privés même sur Facebook ou même sur Tinder par exemple. Et les plus tordus, les plus sophistiqués peuvent même déclencher à distance le micro de votre portable à l'insu de son propriétaire, donc de vous.
Mais non, mais c'est pas possible. Qui fait ça ? Vous, Michel, jamais ? Ça vous traverse
moi,
l'esprit ?
Moi, je n'ai pas de portable.
Je le vois. Nier, toujours nier. C'est toujours ça. Bon, en tout cas, Michel, non, mais beaucoup de monde, puisque ces logiciels se vendent par milliers. Et vous allez entendre Salomé. Elle, c'est son ex qui a mis en œuvre un vaste dispositif pour la surveiller. Écoutez.
Je sais que certaines nuits, il dormait dans sa voiture devant mon appartement. Et je me suis rendu compte au bout de quelques temps qu'il avait accès à toutes les données de mon téléphone et notamment mes messages. Il savait exactement ce que je faisais, ce que je disais. J'avais la sensation qu'il avait des complices, que certaines personnes dans la rue me suivaient. Donc je me retournais. Enfin, il y a eu une période où c'était assez dur psychologiquement.
Donc voilà, Salomé, elle a dû changer de portable parce qu'elle est allée voir son opérateur qui lui a dit « Je ne peux rien faire pour vous ». En tout cas, c'est vraiment effrayant.
Mais parfois dans le couple, Eve, on fait de l'espionnage soft.
Oui, voilà, on connaît tout ça. Même un Français sur cinq l'avoue. On va un peu fouiller les poches, vous voyez, surveiller les cheveux, sur une veste, sentir le parfum dans le cou. Ça, c'était avant les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil sur le portable, sur les SMS, comme ça. Moi, j'en connais dans votre équipe qui m'ont avoué.
Ça dérape. Ça y est, ça part en couille.
Alors, je ne sais pas, Michel, si ça vous est arrivé.
De quoi ? De regarder sur le portable de ma femme ? Oui. Absolument pas.
Jamais, jamais.
Non.
Bon, en tout cas, c'est
franchement,
le cas.
Franchement, je vous l'aurais dit.
Hein. Oui, oui.
Je suis sincère ou pas
hein ouais, mais je vous ai dit, cette carrière d'acteur, elle est là, le bouton les bras.
Parce que c'est le cas de millions de Français. Et je peux vous dire, c'est pas difficile, puisque 60% des Français connaissent le code secret du portable de leur conjoint. Ça, c'est déjà énorme. Et ensuite, moi, ce qui m'a halluciné, c'est que 25%, c'est-à-dire un quart, ils mettent l'empreinte digitale sur le téléphone de leur conjoint pour pouvoir y accéder. Mais si, je vous assure, je l'ai fait avec mon mari, je vous le dis.
Et elle n'est mariée que depuis même pas un an, c'est dire si ça va vite.
Mais c'est bien la preuve qu'il y a encore de la confiance.
C'est vrai. Mais alors, comment peut-on se rendre compte quand on est espionné par son conjoint ?
Il faut d'abord que je vous fasse entendre Léa, parce que Léa, elle a fait quelque chose qui est quand même très sympa. Elle vivait avec un homme qui avait beaucoup aimé son ex-femme, et ça, Léa, ça la rongeait, ça l'empêchait de dormir. La suite, c'est elle qui nous le raconte.
Et un jour, on dormait ensemble et j'ai pris son téléphone. Et en fait, j'ai lu toutes les conversations qu'il avait eues avec cette fille-là. Donc, c'était des messages de couple assez classiques. Genre, on se retrouve où ? Je t'aime. Et puis après, j'ai eu aussi toutes les disputes. Il était vraiment très agressif, très en colère. Il l'insultait, c'était horrible. Enfin, j'ai vraiment lu des messages, mais atroces. Et donc, en fait, j'ai arrêté d'être jalouse. J'ai arrêté de penser à cette histoire. Ça m'a vraiment libérée.
Donc, l'histoire finit bien.
Elle est restée avec lui ?
Ben non.
Ah bah oui, j'espère bien.
Non, parce qu'elle, lui, il ne le savait pas.
Oui.
Il n'a jamais su qu'elle avait consulté le portable. En tout cas, cette méthode est condamnée par la morale, mais en tout cas pas par la loi. Alors, vous me disiez, comment on peut se rendre compte qu'on est espionné par son conjoint ?
Mais oui.
Alors, si vous avez des petits doutes, il vaut mieux réinitialiser régulièrement votre téléphone ou mettre un antivirus. Des gros doutes, il vaut mieux acheter un second téléphone avec une carte prépayée, mais il y a un signe qui ne trompe pas. C'est quand votre conjoint lâche une information qu'il n'est pas censé savoir, et ça marche à tous les coups. Il ne peut pas s'empêcher de gaffer, donc là c'est forcément le drame de la trahison. Et là je suis un peu plus sérieuse, parce que surveiller comme ça les SMS et les mails de quelqu'un, c'est vraiment une pathologie, c'est de la jalousie maladive, et c'est le signe d'une grande fragilité, d'un grand manque de confiance en soi, et évidemment ça se conjugue mal avec l'amour.
Et en tout cas, c'est bien ça, Ève Roger, qui nous distingue des animaux quand on vous écoute, parce qu'on parle depuis tout à l'heure des points communs entre les animaux ne s'espionnent pas quand même, que je sache.
Ils s'espionnent pas, mais ils trichent.
Ils trichent ?
Ils trichent, ils posent des pièges, ils sont menteurs.
Ils simulent.
Ils simulent quoi, Michel ?
Bah, je sais pas,
Ils font semblant, et en éthologie, surtout chez les primates, c'est pas pour rien qu'on est cousins.
Voilà. Mais il simule sexuellement ?
Sexuellement, non. Ça, je pense pas.
Faudra enquêter un peu plus, Farah. Hein. Voilà. On apprend des choses passionnantes dans le livre. J'ai appris que chez certaines espèces, la forme du nez était un message pour les autres membres du groupe. Chez le singe nasique, par exemple, plus le nez est imposant, plus les testicules sont gros. Donc, on peut faire un comparatif. Comme ça que la femelle choisit le...
Oui, on peut pas faire un comparatif chez l'homme.
Il faut savoir qu'Amélie Fallière, qui est l'illustratrice du livre et qui a... vraiment eu quelques scrupules, parce que pour l'avatar de Michel, hein, dans le livre, vous avez Michel dans la peau de chaque animal, et vous avez Michel avec le nez de nasique. Donc, elle n'a pas vraiment osé le mettre dans la case du nez de séducteur, elle a mis dans le nez, dans la case de celui qui était un bon père.
Tant que c'est pas avec le nez de Nagui.
Mais qu'on embrasse.
Mais vous mangez une petite banane dans le dessin, Michel.
Oui, parce qu'en fait, le nez gêne un peu. C'est ce qu'on disait. Le nez mesure chez les nasiques 10 cm. C'est vraiment un gros sac. Ça couvre la bouche. Et effectivement, à chaque fois, ils doivent soulever le nez. Et ce nez-là, vous savez, ça n'existe que chez les mâles. Les femelles ont un joli nez retroussé.
Eh bien, merci pour ces infos. Et merci encore à Ève Roger qui était avec nous pour la dernière chronique en compétition aujourd'hui. Allez-vous gagner, Ève ?
Mais je l'espère.
C'est bien possible avec toutes les saloperies que vous avez dit sur la rédaction d'Europe 1. M'étonnerait pas.
Europe 1.
À suivre, contrairement à nous qui, faute d'idées, décongelons des pizzas Findus un soir sur deux, il n'est jamais en manque d'inspiration devant un frigo. Chaque soir dans Delice in Extremis, Olivier Pouls vous sauve la mise en vous proposant une recette express et facile à réaliser en dernière minute. Et c'est toujours fascinant d'observer le génie en action chez un cuisinier.
Et ça, par exemple, comment vous avez eu l'idée de mettre des zestes d'orange dans du houmous ?
Tout simplement parce que dans ma cuisine tout à l'heure, j'avais une orange et j'avais le houmous.
C'est juste ça. Le hasard de la vie, en fait.
Qu'est-ce que je pourrais bien faire ?
Quel génie.
Heureusement qu'il n'était pas aux toilettes. Hein.
Olivier Pouls arrive.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Même Elton John à Wembley en 86 n'avait pas autant communié avec son public. Et encore, je ne suis que la vedette américaine, la première partie de la vraie star du jour, Michel Simès. Je ne m'en lasse pas, je veux que vous sortiez un album, Michel. Je veux que ces chansons qu'on trouve sur Internet soient sur un album.
Ben, moi j'aimerais bien en plus, hein, ça me fait marrer.
Ouais.
J'adore écrire, réécrire des paroles, faire des parodies et tout. C'est pas impossible qu'avec un pote on fasse ça.
Alors Michel, votre trajectoire professionnelle, on en parlait, est quand même assez fascinante. Vous êtes le médecin préféré des Français, vous êtes toujours dans les classements des Français préférés des Français. Vous avez démarré à la télé, je crois, avec William Lémergie en 92 en Télématin, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, j'ai fait 3 ans et demi de Télématin.
Quand vous allez faire votre première chronique dans Télématin, vous imaginez une seconde ce que ça va donner, ça va devenir votre carrière ?
Alors, quand je vais faire ma première chronique sur Télématin, je m'imagine surtout que je vais tomber dans les pommes en direct. Donc je me projette pas vraiment, vous voyez. Ah oui, non, mais j'ai jamais un trac. Je me suis dit, je vais être le premier à tomber dans les pommes de stress en direct et tout. J'étais tétanisé. J'avais pris des bêta-bloquants.
Carrément.
Non, c'était terrible. Et puis après, non, je me projetais pas. Je vais vous dire, je me suis jamais vraiment projeté nulle part. Les choses sont arrivées comme ça. Ce que j'ai fait a plu. Et puis voilà. Mais je sais pas ce que je vais faire l'an prochain. C'est vraiment step by step.
Il a la langue de bois des acteurs américains. Michel Simès est vraiment très fort. Alors Michel, vous restez médecin avant tout.
Yeah.
L'hôpital public, on en parle tout le temps, est en crise depuis des mois. Vous êtes solidaire de ces mouvements ?
Bien sûr, parce que j'y travaille. Je travaille à l'hôpital public et moi je vois, alors même si je ne fais que consulter, je vois la dégradation, ouais. Il y a de moins en moins de personnel, puis surtout je vois les infirmières, les infirmiers, les urgences, enfin c'est terrible parce qu'on est la meilleure médecine du monde, vous savez, c'est encore reconnu comme ça, et quand vous allez aux urgences et que vous voyez que des gens attendent sur un brancard pendant 5-6 heures, il y a un vrai problème, il y a un truc qui ne va pas. Les internes travaillent beaucoup, ce qui est normal puisqu'on a tous bossé beaucoup pour apprendre notre métier, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de considération humaine pour qu'on puisse se reposer, qu'on puisse, voilà. Quand vous voyez les infirmières, elles sont en burn-out parce qu'elles finissent par... avant, elles étaient deux pour s'occuper d'un malade. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Donc voilà, on ne peut pas continuer comme ça, c'est sûr.
J'ai lu que vous étiez contre l'obligation obligatoire des médecins dans les déserts médicaux.
Non, je suis contre les obligations. On ne peut pas demander à des gens de faire un métier et puis de leur dire, vous allez vous installer là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça la solution. La solution,
c'est quoi la solution ?
La solution, elle est probablement de permettre à des médecins d'avoir ce qu'on appelle un peu plus de cabinet secondaire, c'est-à-dire un médecin qui serait installé dans une grosse ville pourrait aller à 50 ou 100 bornes de là pour ouvrir un deuxième cabinet. Et puis surtout, c'est la délégation de compétences. Les pharmaciens, il y en a partout, des infirmières, il y en a partout, des opticiens, il y en a partout. Si les médecins libéraient un petit peu certains de leurs actes à ceux qui sont dans le domaine de la santé mais qui ne sont pas médecins, on pourrait s'en sortir un peu. Les pharmaciens, ils sont capables de faire de la vaccination. Je veux dire, il y a eu des études qui ont montré dans certains départements que les pharmaciens pouvaient vacciner. On n'a pas besoin d'aller voir un médecin pour se faire faire une picouse.
Oui, ça va dans le bon sens.
Voilà, mais c'est tout. Et des opticiens sont capables de vous faire un bilan.
Mais certains opticiens ont quand même des problèmes. Quand on voit Alain Sirou, visiblement, certains opticiens doivent être plus suivis, plus contrôlés.
Non, mais je parle de ce qui relève de la médecine.
Non, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que les vétérinaires pourraient faire de la bobologie, par exemple?
Pourquoi? Alors, je ne sais pas, parce que je ne connais pas la formation. C'est un peu compliqué, parce que là, c'est de la médecine animale. Mais quand vous voyez que les vétérinaires utilisent des médicaments pour l'homme, pour soigner leurs animaux...
Qui ont été d'abord testés sur les animaux, oui. Rappelons-le. La bobologie, oui, bien sûr qu'on pourrait le faire, mais ce n'est pas notre métier. La solution, elle est dans la revalorisation des métiers de santé humaine. C'est vrai que le vétérinaire a un rôle de santé publique. Hein. On est dans la sécurité des aliments, dans la sécurité de ce qui arrive dans votre assiette, dans la sécurité aussi de tout ce qui est dans les voies publiques, hein, les animaux qui peuvent transmettre des zoonoses, c'est-à-dire des maladies animales qui sont transmissibles à l'homme. Mais la solution, c'est d'aider les médecins et le corps médical entièrement à faire son travail.
Quand on voit ce que les vétos font aux vaches, j'aimerais pas me faire examiner la prostate par un vétérinaire.
Là, on va pas être d'accord, Michel. Je suis sûre que je suis plus délicate que vous pour un toucher rectal.
Eh bien, faudrait qu'on essaye.
Eh bien, justement, il nous reste une coupure pub. Ça sera l'occasion de... Michel, je sais pas si c'est une boutade avec vous, on sait jamais. Vous avez déclaré, si je devais reprendre mes études aujourd'hui, je choisirais la médecine légale et le travail au sein de la police scientifique.
Non, c'est vrai. C'est oui, parce qu'aujourd'hui, ils ont des moyens à leur disposition incroyables. Et quand vous voyez tout ce qu'ils font grâce à l'ADN, puis j'ai tourné une émission sur la police scientifique, mais c'était fascinant. Fascinant. Ils avaient trouvé un cadavre dans l'eau, et après, en fonction de l'autopsie, de l'ADN, des empreintes des dents, etc. Mais quel métier fabuleux. Moi, je ferais ça vraiment.
Alors, lui, le jour de son autopsie, je peux vous dire qu'il y aura du monde. Les plus grandes sommités du monde médical se pencheront notamment sur son foie pour comprendre l'inexplicable. Comment a-t-il tenu le choc avec 2 dégustations par jour pour la Revue du Vin de France pendant 20 ans? Alors Michel Simès, j'ai déjà conseillé à nos auditeurs votre livre, même pas bête, mais je me permets de vous conseiller un autre ouvrage passionnant que vous trouverez au rayon développement personnel. Entre petites leçons de tantrisme avec Patrick Bruel et une pensée par jour, les leçons de sagesse du Dalai Lama, vous trouverez une connerie par jour, les leçons de sagesse d'Olivier Pouls.
Je ne bois pas pour oublier, mais je bois pour me souvenir.
Namasté Pouls. Vous trouvez toujours toutes les justifications pour taper dans la bibine. Chaque soir, dans Delice in Extremis, vous prodiguez à nos auditeurs votre sagesse culinaire avec une recette de dernière minute facile et surtout qui en jette.
Absolument. Et ce soir, j'ai pensé à vous, Mathieu. Oui, j'ai pensé à vous parce que j'ai entendu votre cri.
Bah moi, j'en mange du tofu parfois quand j'ai mangé trop de poulet. Je mange un peu de tofu. Le soir, je prends plutôt du tofu. Le problème du tofu, c'est qu'il y a un peu des hormones féminines dedans.
Ça nuit à ma virilité.
Qu'est-ce que c'est que ce montage ?
Et oui, vous mangez un peu de tofu quand vous avez mangé trop de poulet. Alors hier soir, c'était pas trop de poulet, ça je peux vous le dire. Ah c'était un peu trop d'autres choses, hein, notamment de lièvre à la royale, de Saint-Jacques.
Vous faites référence à notre dîner chez Flunch.
Oui, voilà, c'est ça.
Très bel établissement, effectivement, exactement. Que vous m'avez fait découvrir.
Et donc, vu ce que vous avez mangé hier, on embrasse Stéphanie de Kellec, je pense qu'un week-end au tofu s'impose.
Vous allez vraiment faire ça ?
Eh bien, je vais vous proposer un peu de tofu, bien sûr, puisque vous mangez du tofu quand vous avez fait les excès. Oui, donc, je vais vous proposer un peu de tofu. Mais d'abord, docteur, le tofu, est-ce que vraiment, il y a des risques que Mathieu devienne imberbe et qu'il ait les seins qui poussent ?
Je ne sais pas s'il y a des hormones dans le tofu. Je sais qu'il y a des protéines, c'est très important, mais surtout...
Des phytoestrogènes, dites-vous. Ouais.
Ah, c'est donc, effectivement, des hormones féminines. Mais moi, j'ai mangé du tofu, mais ça n'a aucun goût.
Ah non, mais il faut l'assaisonner.
Non, il faut savoir.
C'est là que Olivier Pouls va rentrer en action.
Moi, j'aime bien manger des trucs qui ont du goût sans les assaisonner, si vous voulez.
Alors, l'idée, c'est qu'on va faire un curry de tofu. Ah, et donc, le tofu va servir un peu de prétexte à avoir quelque chose à manger, des protéines notamment, et un petit peu de texture. Mais on va rajouter des légumes, parce que le médecin que vous êtes va sinon faire les gros yeux et me dire encore trop de gras, etc.
Ah non,
on va
faire un effort. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui vous dira pas, moi, je mets parfois un petit peu de pain sous le beurre, vous voyez. C'est donc,
Pensez, vous êtes un grand sportif.
Arrêtez, pas grave. Écoutez, c'est vrai que j'ai un corps de rêve, mais quand même.
Je prends votre ordonnance, alors sans problème. Non, là, on va être sérieux pour ce soir. On va faire donc un curry de tofu au lait de coco. On va prendre quelques légumes de saison. Là, on a de la courge butternut, par exemple. On pourrait rajouter un peu de poivron. On va rajouter quelques carottes. On va prendre tous ces légumes qu'on va faire revenir avec le tofu, bien sûr. on va rajouter notre lait de coco, on va rajouter une belle pincée de curry et de curcuma, parce que le curcuma, c'est très très bon pour la santé.
Très antioxydant.
Voilà, donc là, on a vraiment un truc healthy, c'est vous dire. Et puis, on va laisser mijoter ça pendant 25 minutes. On va avoir les saveurs du curry, bien sûr, puis on va avoir des jeux de texture entre les carottes qui vont rester un petit peu croquantes.
Des jeux de texture, ça, c'est vraiment un non-fumage de cuistot. Toi. Ouais, tu vas avoir des jeux de texture, on va partir sur une base de...
Voilà, et après avoir mangé ça, Mathieu, les excès d'hier et les trois bouteilles de Châteauneuf-du-Pape sont...
Je vous en prie, ne dévoilez pas tout, Olivier.
Ah, mais vous aviez dit que vous n'aviez pas bu. Hein.
Chut, on se tait, ça n'intéresse pas nos auditeurs. Est-ce que les animaux sont gourmands?
Absolument, oui, oui, oui. Les chevaux, les chiens sont assez gourmands. Si vous laissez un cheval dans un, là où il y a un verger, eh ben, il va vous manger toutes les pommes. Ce n'est pas très bon pour lui, c'est vraiment assez dangereux même. Mais oui, les animaux ont le goût de ce dont ils ont besoin. Par exemple, vous promenez un félin, eh ben, un félin, lui, il n'a pas du tout de bourgeons qui vont détecter autre chose que l'umami, c'est-à-dire le goût qu'on va retrouver dans la viande. Il ne peut pas détecter le sucré, contrairement aux chiens ou aux chevaux.
Est-ce qu'un animal mange au-delà de sa satiété?
Ça dépend, oui. Les chiens, beaucoup les animaux qui sont les animaux de compagnie qui vivent avec nous, on les rend souvent malades. Parce qu'on laisse justement de la nourriture à profusion, à portée de main, alors que dans la nature, normalement, ils mangent, ils doivent chasser, ils doivent trouver leur nourriture. Et ça, ça régule naturellement.
On remercie Olivier Pouls pour votre recette au tofu. Olivier Pouls qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1, évidemment.
Europe 1.
Et Olivier le sait, Olivier le sent, nous approchons du grand final de cette émission, une compétition entre les meilleurs journalistes de la rédaction qui se conclut chaque soir aux alentours de 18h par, évidemment...
Bonne saucisse avec ça, et plein de jus.
Non, un vote Olivier, on vote à la fin. Qui sera élu chroniqueur du jour? Le suspense fait trembler jusqu'au mur du studio Merlin.
Ah, c'est ça.
Non, ça c'est Simès qui vous plotte sous la table, mais ça secoue aussi. À tout de suite.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Les équipées sauvages les plus émouvantes sont les équipées sauvages en public. Pendant 2 heures, les meilleurs journalistes de la rédaction se sont affrontés au service de votre culture G. Un seul va à présent se coiffer de la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour sous l'œil de celui qui était aujourd'hui notre invité d'honneur et qui, je le sens, reviendra bientôt nous voir.
Oui, pour une prochaine émission intitulée « Réveillez votre libido ».
Oui, mais on va caler ça. Michel Simès était avec nous. Il co-signe avec Farah Kessri, même pas bête, un livre éminemment amusant et instructif sur nos 5 sens comparés à ceux des animaux. On a passé un délicieux moment, mais l'heure est venue de trancher dans le vif. Qui mérite d'être élu chroniqueur du jour à ce stade? C'est qui tout double? Ève Roger, pourquoi Michel Simès et également Farah Kessri qui va voter devraient-ils porter leur choix sur vous?
Alors j'ai préparé mon petit compliment pour Michel Simès en lui disant que je le trouve infiniment plus talentueux que Nagui, franchement. Et comme j'ai repéré qu'il avait l'esprit de compète, si vous votez pour moi, ben je retrouve ma première place qui est la place naturelle.
Merci. La place naturelle. Nicolas Garraud.
Eh ben, j'ai quand même résolu un mystère, j'ai mené une enquête et j'ai invité quand même dans l'émission Jean-Christophe Ruffin, qui est académicien et prix Goncourt, c'est quand même sympa. Quoi.
Vous êtes celui qui avait le plus bossé, c'est ça que vous voulez dire.
C'est ce que je voulais dire.
Alain Sirou, pourquoi voter pour vous?
Je pense que Farah et Michel ont un point commun, c'est la curiosité, et qu'on ne peut pas faire de la médecine, que ce soit pour les animaux ou pour les hommes, sans faire de la science. Et la science, c'est l'imagination.
Oui, merci Jamy. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous?
Alors, Michel Simès, Farah Kessri, j'ai aussi beaucoup aimé votre livre. Et puis, votez pour les...
Oh, la faillotte! Ça y est, toujours, il y a un faillot dans une classe.
Pour les plantes, c'est une bonne façon de ne pas se planter.
Toujours le petit jeu de mots avec Anne Le Gall. Chaque fois, vous me surprenez. Eva Davalon. Nicolas Caro.
Je voulais dire que j'ai beaucoup aimé les livres aussi.
Oui, bien sûr. Merci, Nicolas. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, le choix des auditeurs se porte sur Ève Roger, qui remporte les 2 points.
Ève Roger remporte les 2 points. C'était le vote du public de nos auditeurs, mais le vote du public dans le studio Merlin.
Eh bien, victoire écrasante d'Anne Le Gall.
Bien joué, Anne Le Gall. Eh bien, pour ma part. Anne Le Gall qui se découvre des talents de chauffeuse de salle. C'est la José Garcia du nouveau millénaire. Elle chauffe le public. Eh bien, Anne, ça m'excite, je vous offre un point aussi.
Ouais, bravo.
Ça vaut ce que ça vaut. Mais ici, vous le savez, c'est à nos invités que revient la lourde responsabilité de trancher. Farah Kessri, Michel Simès, votre choix contre trip, et donc sextuple, si je compte bien. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Vas-y, Farah, moi je vais...
C'est horrible, parce que vraiment, j'ai le cœur qui balance entre Anne et Alain, parce que c'est vraiment, c'est dur. Allez, on va dire Alain.
Allez,
bien sûr.
Trois points, voyez... points pour Alain Sirou. Alors là, c'est très très serré. Hein.
Et ben, ouais, vous ouais. voyez, bien évidemment, mon cœur irait vers Anne, avec qui j'ai présenté une émission sur Europe 1 il y a quelques
Absolument.
Années.
Voilà. Comment ça va bien, merci.
Ouais. Comment ça va bien, merci, c'était le titre.
C'était le titre de l'émission.
Ouais. Et c'était un très très beau souvenir. Mais je vais faire comme Farah. J'ai été très très intéressé par Alain et par sa chronique qui m'a appris des choses sur l'espace et l'homme dans l'espace qui me fascinent. Donc Alain, je vote pour vous.
Merci.
Eh bien, j'ai envie de dire, les amis, une fois de plus, c'est Alain Sirou qui remporte la compétition. C'était la 79e journée de l'équipée sauvage. On remercie chaleureusement nos invités, Farah Kessri et Michel Simès, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci également à tous mes journalistes, Eva Rock, Ève Roger, Anne Le Gall, Nicolas Caro, Alain Sirou et le Dalai Lama du gras, Olivier Pouls. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Mathieu, et très bon week-end à toute votre équipe et sauvage, le meilleur évidemment ce week-end, et on vous retrouve lundi, 16h-18h, vous serez avec le créateur de mode Olivier Rousteing à lundi.